Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Comment gérer un échec dans la vie? Plusieurs personnes, certains refusent d'accepter un échec. Pourtant, tout ne peut pas, ça peut pas marcher, hein. Parfois, comme on s'y attendait, que ce soit dans la vie professionnelle, dans le mariage ou encore dans les études. Professeur, nous recevons le professeur Joachim Amukau, psychopathologue dans ce studio. Bonjour, professeur.
Bonjour.
J'ai déjà suivi une fois un élève qui n'a pas réussi aux examens d'état. Après ça, on l'a retrouvé. Il est allé se pendre parce qu'il n'a pas su, il n'a pas pu accepter un échec. Il a, malgré les efforts qu'il a fournis, les autres ont réussi et lui n'a pas réussi. Comment gérer un échec dans la vie, professeur?
Merci beaucoup, mon frère, pour m'avoir invité dans ce studio afin que nous puissions parler de comment gérer un échec dans la vie.
Oui.
En fait, ce que je peux dire, c'est que l'échec est l'un des moments les plus difficiles à traverser dans la vie.
Mm-hmm.
Et l'échec est également un phénomène social et qui se trouve sur le chemin d'un chacun. Donc, personne ne peut s'empêcher de pouvoir
échouer.
Oui. De pouvoir échouer. Ben, maintenant, le problème, c'est de voir qu'est-ce que nous devons faire toutes les fois que nous nous trouvons devant un échec. Hein? Parce que, donc, dans la vie, il y a toujours deux pôles. Il y a soit on réussit, soit on échoue.
Mm-hmm.
Donc, on ne peut pas dire, mais écoutez, moi je ne vis que pour réussir. Donc, ça, c'est toute une illusion. Donc, mm-hmm. L'échec, c'est un phénomène social.
Et ce n'est pas une fatalité.
C'est pas une fatalité.
Mm-hmm.
Donc, l'échec, c'est un phénomène social. Je le définis comme étant un phénomène social
oui.
vécu par une personne et à la suite de l'inachèvement d'une action entamée.
Mmh.
Et donc, lorsque quelqu'un est en train d'entamer une action et de chercher à pouvoir poursuivre un but bien déterminé, eh bien, il se pourrait que la personne ne puisse pas atteindre ce but-là.
Mmh.
Et là, nous parlerons de l'échec. Alors, donc, nous disons que, bon, voilà, comme la personne n'a pas accompli un but, donc nous dirons que la personne a échoué.
Oui.
A échoué, donc.
Par rapport aux objectifs
que
la personne s'est fixé.
Exactement.
Alors, professeur, dans cette émission, les auditeurs vous suivent de partout à travers la République et ils
oui.
appellent pour poser des questions en direct.
Oui.
Ils savent que vous êtes là, vous allez peut-être les aider. Alors, nous avons déjà Boss qui nous appelle depuis Colisie. Bonjour,
oui.
Boss.
Bonjour, Jean.
Alors, on vous écoute, Boss. Quelle est votre préoccupation?
C'est Jean Gamboche depuis Colisie. Hein.
Oui.
Ma question est celle-ci. Il y a d'autres personnes qui arrivent à présenter les examens d'état plus de 3 fois, mais ils ne font qu'échouer. Et par après, ils décident même d'abandonner les études. Alors, quels conseils que les professeurs peuvent leur donner?
Ah oui, merci beaucoup pour cette question. C'est vrai, lorsque quelqu'un présente un examen d'état, a priori, l'idée ou l'objectif de la personne est de réussir. Mais il y a 3 étapes que je vais essayer de proposer pour essayer de faire face à un échec. La première chose, la personne doit affronter l'échec. Tu dois affronter l'échec. Tu peux pas démissionner devant l'échec. Tu dois l'affronter. Tu dois l'affronter, c'est-à-dire que tu dois te dire, écoute, oui, j'ai échoué pour la première fois, eh bien, je vais tout faire encore pour essayer de rebondir. La deuxième chose, tu devras analyser pourquoi tu as échoué. Donc, l'analyse te permettra ce que nous appelons en clinique les examens, les évaluations. Tu évalues ta situation et évidemment, il y a là-dedans 2 éléments que tu pourras encore, ou 2 sous-éléments que tu pourras encore isoler. Il y a des éléments que j'appelle intrinsèques et des éléments extrinsèques. Donc là, je vais dire que pour parler des éléments intrinsèques, là, c'est toi-même. Tu vas voir, est-ce que j'ai une part dans cet échec. Toutes les fois que je présente un examen d'état, toutes les fois, n'est-ce pas, que j'étudie et tout ça, est-ce que j'ai une part dans cet échec là? Là tu vas isoler les facteurs intrinsèques. Maintenant, il y a des facteurs extrinsèques que tu devras aussi essayer d'isoler. Les par facteurs extrinsèques, j'entends tous les facteurs environnementaux. Donc, comment la famille, les amis, et comment l'école elle-même, quels sont les éléments qui ne vont pas, hein, qui
les éléments externes qui
et, a, voilà qui font que... et externes, oui. qui ont une influence, n'est-ce pas, et dans ton parcours scolaire. Donc je pense que lorsqu'on est devant un échec, et comment on appelle, excusez-moi, un échec, la première chose à faire, c'est d'affronter cet échec, et deuxièmement de pouvoir l'analyser. Tu analyses l'échec, et lorsque tu analyses l'échec, tu verras que au niveau de la troisième étape, tu seras en disposition des causes. Tu as maintenant les causes. Et maintenant, c'est en fonction de ces causes que tu pourras maintenant te positionner. Voilà, que tu pourras te positionner. Donc, l'échec, c'est pas une fatalité. On peut pas vraiment démissionner. On peut pas dire, écoutez, j'abandonne et parce que j'ai échoué une, deux fois. J'ai vu beaucoup de gens qui ont échoué, qui ont échoué plusieurs fois dans la vie.
Mais ils se sont pas découragés.
Et puis, je vais encore dire une chose là-dessus. Vous savez que l'échec prépare quelqu'un à pouvoir très bien rebondir, vous savez. Vous savez que toutes les fois que vous échouez, et donc vous analysez la situation qui fait que vous puissiez échouer, eh bien, ça vous permet de pouvoir apprendre encore la vie.
Professeur, certains disent qu'il faut, mieux reculer pour mieux sauter.
Ouais.
Est-ce qu'on peut dire que l'échec nous permet aussi de rebondir? Ça vient juste confirmer ce que vous voulez dire.
Oui. Parce que vous savez même, regardez, si on peut parler sur le plan mondial, ce qui s'est passé dans le monde avec la crise. OK? Avec la crise économique, la crise financière qui a secoué le monde. Vous remarquez bien qu'on dit que le capitalisme a échoué. Voilà un peu. A échoué. Donc, on dit quoi? Mais pendant qu'on dit qu'il y a eu un échec, mais des entreprises ont essayé de se positionner par rapport à cela pour très bien rebondir. Voyez là. Donc, l'homme doit savoir que il y a toujours des choses. La pire des choses, c'est laquelle? C'est de ne pas penser que je peux échouer. Voilà.
Il faut toujours se dire que ça peut arriver.
C'est une alternative.
On y revient. Le temps de recueillir la question de Luana de Kwimbanaka. Bonjour.
Merci.
Luana, bonjour.
Oui, bonjour, j'ai dit.
Oui, quelle est votre question?
Oui, ma question. J'aimerais demander au professeur. Quel comportement on peut adopter quand on est devant un résultat malheureux qu'on n'a pas mérité? Et surtout, pour les résultats des examens d'État, quand on a été dessus par une femme, donc je vois là le mariage.
Oui.
Quel comportement on peut adopter pour pouvoir gérer cet échec? J'ai déjà connu des gens qui ont été découragés par ça, malheureux, et ils n'arrivent plus à se maîtriser. Alors, seul moyen est d'abandonner les études ou soit chercher d'autres moyens pour pouvoir gérer cet échec.
Merci Luana. Professeur va répondre.
Merci bien pour cette question. Écoutez, moi, la conception, ma conception de l'échec est celle-ci. Pour moi, l'échec n'est pas un échec. L'échec, en réalité, n'est pas un échec. Et parce que l'échec n'est pas un échec, mais c'est un moyen qui permet à quelqu'un de pouvoir rebondir. Mais ce n'est pas vraiment un échec. Pourquoi je dis ça? Eh bien, lorsque, prenons, tu veux apprendre comment attraper un ballon, attraper un ballon. Donc, tu auras en face de toi quelqu'un, n'est-ce pas? Tu devras avancer devant quelqu'un et qui aura ce ballon et qui devra lancer le ballon afin que tu puisses, n'est-ce pas, le saisir. Mmh. Ok?
Oui.
Donc, mais admettons que la personne lance le ballon vers toi et que tu laisses le ballon rebondir sans que tu puisses le saisir. Ok? Donc là, on dit que toi tu peux pas dire que tu as échoué de saisir le ballon, n'est-ce pas? Mais il y a un résultat. Ok? Il y a un résultat que tu as obtenu à ce moment-là. Ce n'est pas vraiment un échec. Toi, tu peux penser que tu as échoué, mais normalement, il y a un résultat. Le résultat, c'est que le ballon a rebondi sans que tu puisses le saisir. Maintenant, la question, c'est laquelle? Tu ne vas pas t'encharner, tu ne vas pas pleurer pour dire, écoutez, j'ai échoué, je n'ai pas attrapé le ballon. Mais c'est que tu diras, mais écoutez, qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'il faudra que j'arrive de toutes manières à pouvoir attraper le ballon.
Voilà, professeur Robert Baumé nous appelle depuis Bukavu. Bonjour, Robert.
Bonjour.
On vous écoute.
J'ai une petite question à vous poser. Comment faire pour refuser ou accepter un échec? C'est ça la question.
Merci, Robert.
Oui. Comment faire pour refuser ou accepter un échec? Vous savez que, dans un premier temps, lorsque vous êtes devant un échec, la grande préoccupation de quoi, c'est quoi? Vous devez vous-même accepter cet échec. Accepter l'échec, c'est quoi? C'est oublier cet échec. Oublier ce que vous appelez échec.
Le problème aussi, c'est l'environnement. Les gens qui vous disent, toi, tu es un bon à rien, tu n'as rien fait, on a espéré que tu allais réussir, et voilà, on a dépensé l'argent pour rien, les parents peuvent vous dire, et puis la personne se sent un peu déprimée, professeur.
Mais oui, il y a, c'est vrai.
Il y a ces pressions qui viennent de partout.
Exactement, c'est ce que j'ai appelé ici les éléments extrinsèques.
Ouais.
Maintenant, il y a toi, et il y a l'environnement. Mais l'acteur, c'est toi. N'est-ce pas? L'acteur, c'est toi, c'est pas l'environnement. C'est toi qui dois dire à l'environnement que moi, je suis capable de faire quelque chose. Il y a un auteur qui disait que mon nom n'a de sens que si les autres en donnent un. N'est-ce pas? Mais d'abord, c'est toi qui te donnes un nom, mais les autres vont reconnaître ce nom-là. Donc, c'est toi qui dois prouver que moi, devant cet échec, je dois l'affronter. Ok, il doit l'affronter.
C'est comme une équipe de football qui va à une grande compétition.
Ouais.
Tout le pays, tout le monde s'attendait à ce que l'équipe va remporter.
Ouais.
La coupe, et puis à la fin, c'est la défaite. Hein.
Enfin, c'est la défaite. Mais pour une équipe de football, ce qui est vrai, c'est quoi? En allant, même si on peut dire, bon, il y a des pronostics et tout qu'on sort, en réalité, l'entraîneur a deux alternatives, l'échec ou réussite.
La réussite.
Voilà. Mmh. Alors, c'est pourquoi ce qui arrive ne peut pas faire écrouler les gens, eh bien parce qu'il y a eu ça. Mais si vous n'aviez que un seul facteur,
la réussite,
tête,
on doit remporter la victoire.
La réussite,
ouais.
C'est là où on peut mourir.
Radio Okapi, Okapi.
Pour participer à Okapi Service, appelez au 081 890 63 94 et envoyez vos SMS au 081 070 20 50 ou bien écrivez-nous à action@radiookapi.net.
Kamango nous appelle depuis Beni. Bonjour Kamango. Kamango, bonjour.
Une petite question.
Oui.
Peut-on encore parler de facteurs d'entretien pour un génie qui a échoué d'examen d'état plus de trois fois? Or, si on constate bien, c'est toujours guéri, qui a toujours expliqué la matière et à ses condisciples.
Un génie qui a échoué trois fois, alors que c'est lui qui explique la matière aux autres.
Oui, oui. Donc, je disais ça la semaine dernière aux étudiants. Exactement, j'étais en train d'expliquer un phénomène docimologique aux étudiants pour dire, bah, écoutez, quelle est l'attitude ou quelle interprétation vous allez donner, n'est-ce pas, à quelqu'un qui réussit. Prenons quelqu'un qui a toujours 7 sur 10 en mathématiques, 8 en français, ainsi de suite.
Oui.
Il a toujours des cotes qui sont supérieures à 6, n'est-ce pas?
Oui.
Quelle interprétation vous allez donner pour la vie, pour quel pronostic vous allez donner pour cet homme-là? Donc, le génie est génie par rapport à un domaine. Ok, il y a un domaine. On peut dire, bon voilà, il est surdoué, n'est-ce pas, par rapport à un programme scolaire, par exemple. Le programme scolaire peut décider de dire, bah, écoutez, il y a quelqu'un dont les notes scolaires sont supérieures. sont supérieurs et par rapport à l'ensemble de la classe ou bien par rapport à une population donnée, n'est-ce pas, d'âge. Alors on dit cet homme-là qui réussit les échelles, n'est-ce pas, de son âge ou supérieur à son âge, la personne est vraiment surdouée. Mmh. On peut dire ça. Mais écoutez, mais ici, lorsque cette personne qui était considérée comme surdouée, n'est-ce pas, comme génie dans une école, qui expliquait toutes les matières, mais il arrive à ce que dans le domaine dans le domaine familial, dans le domaine professionnel, que cette personne échoue, c'est normal. Mmh. C'est normal. Pourquoi? Parce que les capacités scolaires, il y a aucune raison pour dire que celui qui réussit à l'école, il n'y a pas une loi que celui qui réussit à l'école doit réussir, n'est-ce pas, en milieu de travail. Il n'y a pas
alors,
une loi.
Professeur, qu'est-ce que vous direz? Je vous ai dit tout à l'heure le cas d'un enfant qui s'est pendu, un élève, parce qu'il n'a pas réussi aux examens d'État.
Ouais.
Peut-être que ses parents, tous les jours, on lui répétait, toi, tu es un bon à rien, on a dépensé l'argent pour rien. Quelle attitude les parents, par exemple, peuvent tenir devant un enfant qui a échoué?
Oui, l'attitude que les parents doivent avoir devant un enfant qui a échoué, c'est une attitude d'encouragement. Il ne faudra pas que le parent culpabilise l'enfant. Parce que lorsque le parent culpabilise l'enfant, il y a certaines conséquences que l'enfant pourra avoir. Prenons des troubles psycho-affectifs. Oui. L'enfant va tomber dans une attitude de menace. C'est comme si l'environnement ne l'aime pas. C'est comme si donc la famille ne l'aime pas. Donc il est vaut n'a rien. Et vous savez bien que les troubles psycho-affectifs ont des effets nocifs sur la capacité qu'a l'homme de pouvoir à apprendre, de pouvoir affronter encore d'autres situations de la vie. Mmh. Donc le parent, ce qu'il doit avoir comme attitude, c'est d'encourager l'enfant, c'est de dire vas-y encore, essaye encore, d'aller avec, de l'accompagner, de dire bah, écoutez, tu as échoué, analysons ensemble cette situation, pourquoi tu as échoué, essayer de l'encadrer pour voir ensemble au regard des éléments qu'ils auront mis de côté, ils pourront, n'est-ce pas, très bien sauter.
Alors pour un homme d'affaires qui échoue dans le business, il a placé son argent, beaucoup d'argent, et puis ça n'a pas marché.
Oui, mais c'est la même chose. Mmh. Vous savez bien que lorsqu'on est un homme d'affaires, tu as placé ton argent dans une affaire bien déterminée, eh bien, il y a toujours des alternatives.
Il y a toujours des risques.
Il y a toujours des risques. Oui. L'homme d'affaires doit toujours savoir ou bien je vais avancer, ou bien je vais reculer, ou bien je resterai un peu stagnant. Et surtout maintenant, avec la crise mondiale, évidemment, l'homme d'affaires devra toujours savoir que ou bien ça va aller, ou bien ça va pas aller. Il faudra pas qu'il ait dans sa tête toujours l'idée que tout ira mieux. Mmh. Sinon, si ça va mal, il va s'écrouler. Toujours avoir ces deux alternatives dans la tête.
Ça peut marcher comme ça peut pas marcher.
Ça peut marcher comme ça peut pas marcher. Et au fur et à mesure que tu es en train de fonctionner, que l'homme d'affaires évolue, au fur et à mesure, il devra, n'est-ce pas, isoler les éléments qui font qu'il puisse réussir et les éléments qui l'empêchent de temps en temps, qui constituent des goulots d'étranglement dans son avancement.
Nous avons en ligne Kabessam qui nous appelle depuis le Bandundu. Bonjour.
Bonjour. Je voudrais poser une question au professeur.
Oui.
J'ai comme l'impression que il y a des échecs qu'on ne peut pas réparer. Par exemple, dans le cas du mariage, vous êtes marié, vous vous rendez compte que dans le cours du mariage, il y a des incompatibilités qui ne vous permettent pas d'avancer. Là, le procès me demande de chercher des solutions, je ne sais pas, miraculeuses. Il faut carrément divorcer, tout en sachant que nous, comme chrétiens, la Bible nous demande de ne pas divorcer. Quelle solution il propose dans un cas de mariage où il y a des incompatibilités, on sent que c'est un mariage raté, un mariage qui ne peut pas réussir.
Oui, merci beaucoup pour cette question concernant le mariage. Là, ça entre dans le domaine de la thérapie du couple. Eh bien, ce qui est vrai, ce qu'il faut retenir, c'est que tout le monde n'a pas la même faculté à pouvoir rebondir, n'est-ce pas, après un échec. Tout le monde n'a pas cette capacité. Ça, c'est vrai. Mais lorsque vous êtes en situation du couple et que la situation devient intenable, je pense que sur le plan stratégique, vous devez analyser. J'ai toujours dit, en thérapie du couple, que tout part du fondement. Tout part du fondement. D'où vous êtes parti, n'est-ce pas? Si le mariage a été, donc si le départ du mariage n'a pas été solide, donc disons que, en tout cas, la suite posera aussi des problèmes. Pourquoi vous êtes marié? C'est la grande question que vous allez vous poser. Lorsque j'étais encore étudiant, et en psychologie, je disais ceci toujours, ben, lorsque deux personnes s'aiment, évidemment, il faudra que l'une et l'autre puissent se poser la question, pourquoi la fille vient vers moi, et la fille devra aussi se poser la question, mais pourquoi le garçon est venu vers moi? Ok, donc savoir pourquoi est-ce qu'on doit s'aimer.
Professeur, au début, tout allait très bien, tout baignait. Alors ils ont passé à l'étape des fiançailles, ils se sont mariés, mais ouais. Après, il y a des incompatibilités. On se rend compte que ça ne marche plus d'une part et d'une autre. Alors,
l'incompatibilité, il y a toujours une raison. En psychologie, nous disons, tout comportement a une signification. Donc, il n'y a rien qui puisse se poser, qui puisse se faire dans un couple sans qu'il y ait quelque chose. Donc,
alors, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Il doit chercher cette cause-là.
Il doit chercher la cause et réparer. Parce que tu ne peux pas démissionner, vous savez.
Mais vous savez, dans les couples, parfois, chacun tire les draps de son côté. Non, c'est toi, c'est ta faute. L'autre dit non, c'est à cause de toi.
Ça, c'est l'irresponsabilité. C'est l'irresponsabilité. Du moment où, d'abord, si on doit s'en tenir, n'est-ce pas, au mariage, nous devons très bien comprendre que lorsqu'on se marie, c'est pour toujours. Ok, oui. Lorsqu'on se marie, c'est pour toujours. On se marie pas pour qu'on puisse divorcer. Donc, lorsqu'on se lance dans le mariage, c'est pour toujours. Alors, du moment où tu as pris la décision de pouvoir te marier, donc, entends-toi aussi à d'autres situations qui pourront te conduire vers un échec.
Oui.
Évidemment, lorsqu'on se marie, il y a une parole ou deux paroles qu'on prononce, n'est-ce pas? Je me marie pour le meilleur et pour le pire. Ok? Donc, il faudra bien que les deux puissent s'entendre à cela. Que le meilleur arrive ou que le pire arrive. Ce sont les deux pôles. Alors, lorsque le meilleur arrive, réjouissez-vous. Mais lorsque le pire arrive, réfléchissez.
Oui. Voilà, c'est intéressant, professeur Joachim Moukaou. On s'arrête là pour aujourd'hui.
Merci.
Je rappelle que vous êtes psychologue. Pathologue.
Merci.
Et on va peut-être vous retrouver une prochaine fois.
Merci bien.
Bon début de semaine. Hein.
Merci à vous aussi. Merci. Au revoir.
Au Capi Service.
Au Capi Radio.